Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. C'est dans deux jours maintenant que les Turcs doivent élire leurs députés et leurs présidents lors d'un double scrutin. Ce fameux scrutin que l'actuel chef d'État Recep Tayyip Erdogan a avancé de plus de 16 mois. À l'approche de ce vote crucial qui marquera l'entrée en vigueur du régime présidentiel adopté par référendum l'an dernier, l'homme fort de Turquie est inquiet. Il risque de perdre le soutien d'une partie de ses électeurs, inquiet notamment de sa dérive autoritaire. Le reportage d'Anand Lauer à Istanbul.
Dans la chaleur moite d'un café de la rive asiatique d'Istanbul, Tolga se livre discrètement mais d'une voix résolue. Cet ingénieur de 38 ans qui préfère taire son nom de famille est le genre d'électeur qui donne des sueurs froides à Recep Tayyip Erdogan. De 2002 à 2015, chaque fois qu'il est allé voter, Tolga a fait confiance à l'actuel président et à sa formation, l'AKP. Mais ces dernières années, l'enthousiasme s'est mué en gêne, puis en désillusion.
Je connaissais Recep Tayyip Erdogan comme un homme de projet. Il est devenu un homme autoritaire, un homme de pouvoir. Avant, il agissait en tenant compte des opinions divergentes. Maintenant, il ne s'intéresse plus qu'à ceux qui votent pour lui. Il y a cette attitude du « moi, je sais mieux que tout le monde » qu'il pousse à dénigrer toutes les formes de critique. Ce n'est pas un dictateur, mais il est très autoritaire. Il m'a beaucoup déçu.
Même s'il hésite à en parler autour de lui, Tolga n'en doute pas. De plus en plus d'électeurs ressentent la même déception. Des Turcs qui, comme lui, voyaient en Tayyip Erdogan un démocrate convaincu et suivent avec inquiétude sa dérive autoritaire. Des électeurs de centre-droit qui votaient AKP sans lui être forcément fidèles et que l'état de l'économie, principale inquiétude des Turcs selon tous les sondages, achève d'éloigner du parti d'Erdogan. Des Kurdes qui comptaient sur lui pour leur amener la paix et la prospérité et attendent toujours l'une et l'autre. Kemal Can, un journaliste qui couvre la droite turque depuis trois décennies, partage ce constat. Il rappelle d'abord ce qu'était au début Recep Tayyip Erdogan et son parti.
À son arrivée au pouvoir, l'AKP avait développé une certaine image, celle d'un parti qui renverse les tutelles, élargit la démocratie, tend la main aux Kurdes, développe ses relations avec l'Union européenne et l'Occident, apporte le développement économique. L'AKP avait cette capacité à créer une histoire qui mobilisait les électeurs et face à laquelle l'opposition ne parvenait pas à trouver un discours. C'était une vraie hégémonie.
Kemal Can situe la cassure à l'été 2013, au moment des protestations autour du parc Gezi et de la place Taksim d'Istanbul.
Depuis, c'est très net. Erdogan est sur la défensive. Il consacre toutes ses capacités politiques à perpétuer son pouvoir. Il a perdu sa capacité à créer l'histoire et n'est pas parvenu à élargir sa base électorale. C'est d'autant plus grave pour lui que sa popularité se dégrade dans les centres et chez les populations les plus dynamiques du pays, les grandes villes et les jeunes éduqués.
Le référendum de l'an dernier, qui instaure un régime où le chef de l'État concentre presque tous les pouvoirs, a donné le signal d'alarme. Près de 60% des moins de 27 ans ont voté non. Recep Tayyip Erdogan ne l'a emporté que d'une courte tête au niveau national et a subi une lourde défaite à Istanbul et Ankara, les deux plus grandes villes turques qui lui étaient acquises depuis près de 25 ans. Kemal Can.
Ces derniers mois, toutes les tactiques tentées par Erdogan pour inverser la tendance se sont soldées par un échec. Son alliance avec le parti ultranationaliste, les opérations militaires en Syrie, l'exacerbation calculée des tensions avec l'Occident, tout cela ne s'est pas traduit en voix supplémentaire alors que dans le même temps, l'opposition a réussi pour la première fois à s'unir.
Dimanche, quatre partis feront en effet front commun contre l'AKP et son allié ultranationaliste aux élections législatives, au sein d'une alliance dite de la nation. Signe des temps, même le petit parti islamiste, dont Recep Tayyip Erdogan a fait défection en 2001 pour fonder l'AKP, a rejoint cette alliance pour s'inscrire désormais dans les rangs de l'opposition. Bilal Ay, vice-président et candidat du parti à Istanbul, juge cette rupture logique.
Si vous regardez nos priorités, le système judiciaire, le système éducatif, économique, la politique intérieure et étrangère, il est clair que la déception envers Erdogan est là. Lors des élections précédentes, les médias soumis au pouvoir avaient réussi à embellir les choses et à influencer nos concitoyens, mais ça ne marche plus désormais. La magie n'opère plus. Les citoyens ont ouvert les yeux. Nous voyons que des électeurs qui votent été AKP autrefois se tourne vers nous.
Le parti pro-kurde a certes été exclu de cette alliance d'opposition, mais s'il dépasse le seuil électoral de 10% et si l'Alliance de la Nation séduit un nombre suffisant de déçus du chef de l'État, ce dernier pourrait perdre sa majorité absolue au Parlement. Tolga, l'ingénieur trentenaire qui a longtemps soutenu le parti de Tayyip Erdogan, a pris sa décision. Il ne votera pas AKP aux législatives. Pour la présidentielle, il hésite encore.
Je ressens un certain attachement envers Erdogan, celui qui a renversé le statu quo, celui qui a mis fin au gouvernement des élites en Turquie. Je lui en suis toujours reconnaissant. Il a réussi à changer le regard des citoyens vis-à-vis de l'État, en tout cas dans ses premières années de pouvoir. Si je vote pour lui, ce sera au nom de cet attachement. Mais j'ai l'esprit très confus.
La plupart des sondages prédisent un résultat serré lors de ce double scrutin. Particularité, les élections législatives ne se joueront qu'à un seul tour. Quant à la présidentielle, s'il n'obtient pas 50% des voix dimanche, Recep Tayyip Erdogan affrontera un second tour le 8 juillet. L'actuel président, qui avait été élu dès le premier tour en 2014, y verrait une humiliation.
Vous avez sans doute reconnu les paroles et l'air du tube des Eagles, Hotel California, qui s'applique parfaitement en ce moment à ce que vivent les Britanniques, du moins cette majorité qui a voté le Brexit, mais qui a l'impression au final de ne pas pouvoir sortir de cette Union européenne. Car demain, cela fera 2 ans que le référendum aura eu lieu. Depuis, les négociations traînent, les crises politiques s'enchaînent. Marie Billon.
2 ans après le vote, le Brexit est censé n'être plus qu'une procédure administrative. Eh bien, on en est loin. Demain, les europhiles vont encore défiler dans le centre de Londres pour demander un vote populaire sur l'accord que Theresa May aura négocié avec Bruxelles. De leur côté, les pro-Brexit trouvent le temps long. Souvenez-vous, pendant la campagne, le Premier ministre d'alors, David Cameron, avait promis de déclencher la procédure de sortie dès le jour des résultats. Le 24 juin 2018 aurait donc dû être Independence Day. En fait, de célébration du Brexit, le gouvernement se contentera de pousser une fois de plus un ouf de soulagement pour avoir évité une énième défaite au Parlement. Lords et députés finissaient le 20 juin dernier d'étudier la loi d'abrogation, celle qui doit naturaliser les lois européennes. Un texte purement technique avancé Downing Street, sauf que plusieurs rebelles conservateurs ont voulu s'en servir pour donner plus de pouvoir à Westminster. Et il a fallu des heures de discussion, de compromis pour que le texte soit adopté de justesse. Et pendant ce temps-là, à Bruxelles, ça n'avance pas beaucoup plus vite. Quelques étapes ont certes été franchies, mais toujours à la dernière minute, parfois avec des retournements de situations rocambolesques, comme lorsque Theresa May a dû quitter Londres en pleine nuit pour finaliser un document juste avant Noël. Le problème, c'est que le gouvernement britannique négocie en vase clos. Il faut imaginer les ministres discutant de leur position sur l'union douanière, par exemple, dans une grande bulle de verre faite de miroirs sans teint. On les voit, on les entend, mais eux, de leur côté, ne se rendent même pas compte que Bruxelles leur crie que l'option sur laquelle ils sont en train de s'écharper n'est de toute façon pas acceptable pour l'UE. Résultat, sur l'union douanière, on a un plan C, mais de plan A ou de plan B, point. Le sommet européen à la fin du mois devrait donc produire son lot de drames habituels. La programmation du spectacle change à chaque fois, mais l'intrigue reste la même et commence à lasser les Britanniques. So I'll sing farewell to Carlingford
and farewell to Greenock. Sur la grande île d'Irlande, au nord comme au sud, on suit avec attention et inquiétude les négociations de ce divorce, tout particulièrement ceux qui vivent près de la frontière, notamment du côté du lac ou l'off de Carlingford, où un ferry est entré en service il y a à peine un an. Il permet une traversée directe entre le nord et le sud. Aucune frontière n'est visible durant le trajet. Le projet imaginé de longue date visait à assurer une ligne plus directe entre les deux pays dans cette partie isolée de l'île. Mais le Brexit pourrait couler cette nouvelle desserte. Reportage à Carlingford, Julien Lagache.
On est les seuls clients du bateau aujourd'hui. On va l'avoir pour nous tout seuls.
Oui, on dirait.
Peut-être même qu'on ne paiera pas.
Il va falloir qu'on y aille parce qu'il est bientôt...
Quelle heure est ?
10h30.
Ah oui.
Au revoir.
Traverser le loch de Carlingford, c'est ce qui a attiré Brian et PJ. Les deux amis instituteurs retraités sont adeptes de vélo. Venus du comté voisin de Monaghan, côté irlandais, ils finissent de revêtir leur combinaison cycliste avant d'embarquer pour ce petit voyage.
Ce qui nous a fait venir, c'est un peu l'attrait de la nouveauté. Avoir un ferry à proximité pour une traversée, bon marché, c'est pratique. Et ça nous permet de faire un peu de bateau et un peu de vélo.
J'ai dit à des amis que je faisais une croisière aujourd'hui, une croisière de 18 minutes, la croisière la plus courte du monde.
Le petit bateau-taxi qui fait la navette entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord commence à séduire, à la grande satisfaction de Geoffrey Chestnut. Il gère un camp de vacances non loin du débarcadère de Greencastle sur la rive nord-irlandaise.
On voit nos voisins du Sud venir de plus en plus souvent ici, et Carlingford Ferries est un véritable atout parce que ça a ouvert la baie. Beaucoup de gens ignoraient jusqu'ici que cette partie du monde existait. Ils auraient roulé directement de la ville de Newry à Newcastle et nous auraient ratés. Là, ils nous découvrent pour la première fois.
Car le secteur assez rural et montagneux est surtout connu localement pour les enterrements de vie de jeunes filles ou de garçons. Et si les jours de semaine sont plutôt calmes, les week-ends voient affluer les voitures au terminal de Greenore, côté irlandais. Owen Trenor a vécu toute sa vie dans les parages et l'ancien fermier de 85 ans dit y voir de plus en plus de monde.
La dernière fois, j'ai vu 90 voitures attendre à quai parce que le petit ferry ne peut en prendre que 15 ou 20. Il est débordé le week-end. Même des tracteurs font la queue pour embarquer.
Ils sont autorisés à monter ?
Non, mais ils le font quand même.
Pour la haute saison, un plus grand ferry va prendre le relais. Il embarquera jusqu'à 40 voitures, bus et caravanes de vacanciers. Mais le ferry a également ouvert un nouvel axe de communication locale qu'empruntent certains clients devenus des habitués. Nora McKee vend et contrôle les billets à bord et commence à reconnaître certains visages familiers.
La plupart de ceux qui font la navette quotidiennement viennent d'Irlande du Nord, surtout pour aller au travail à Dublin. On en a quelques-uns qui viennent d'Irlande, mais pas beaucoup, peut-être un ou deux enseignants. Alors chaque matin, c'est « Bonjour Nora !» Puis on scanne leur ticket, ils se garent et font une sieste.
Car la traversée en bateau de 20 minutes permet d'éviter un détour de près d'une heure par la route pour contourner le loch, de quoi ouvrir quelques perspectives commerciales, estime Paul O'Sullivan, directeur de Carlingford Ferries.
Pas plus tard que ce matin, une entreprise de transformation de poissons basée à Kilkeel au nord nous a contactés. Ils livrent du poisson régulièrement à Dublin et dans le sud-est de l'île, donc pour eux, le ferry permettrait de réduire leur trajet de 2 à 50 km. Et côté sud, une entreprise similaire utilise fréquemment le ferry pour rejoindre le port de Kilkeel.
En plein Brexit, toutefois, l'incertitude plane sur la pérennité de cette liaison nord-sud qui a nécessité 10 millions d'euros d'investissement de la société de Paul O'Sullivan. Il se veut optimiste, même si une frontière entre les deux Irlandes devait traverser le loch de Carlingford.
S'il devait y avoir une frontière physique avec des contrôles douaniers, je me dis que les gens en voiture préféreraient peut-être effectuer ces contrôles dans le confort de notre terminal avec vue sur le loch de Carlingford plutôt que d'attendre sur l'autoroute.
Restée plusieurs décennies à l'état de projet et à peine inaugurée, la liaison ferry semble cependant déjà menacée, ce qui fait craindre à certains le retour à l'isolement pour cette région excentrée.
Et c'est peut-être au son des tambourins que les Lituaniens vont célébrer Rasa, la fête païenne de la nuit la plus courte, qui coïncide aussi cette nuit avec la fête de la Saint-Jean. Couronne de fleurs jetée dans la rivière, rituel pour prédire l'avenir des jeunes filles. La religion païenne a le vent en poupe en Lituanie. Le Parlement devrait même reconnaître dans les prochains jours ce mouvement comme religion. Mais cette décision déclenche les passions, Marielle Vituro.
Ils sont plus de 5000 à s'être revendiqués du paganisme lors du dernier recensement de 2011. Ces Lituaniens honorent Perkūnas, le dieu de la foudre, ou bien encore Gabija, la déesse du feu. Des fêtes toutes liées au cycle de la nature. Le chef de la majorité au pouvoir a même fait ériger dans son village des statues en l'honneur des dieux et déesses païennes. En fait, ce culte animiste a connu un renouveau pendant la période soviétique. L'association Romova est créée en 1967 par un étudiant en philosophie. Avec les mouvements écologiques, elle fédère les Lituaniens autour d'une idée nationale et constitue le ferment du grand mouvement citoyen qui a permis le retour à l'indépendance du pays en 1991. La Lituanie a cette particularité d'être le dernier pays d'Europe à avoir été christianisé à la fin du XIVe siècle, et ses pratiques païennes ont perduré encore longtemps dans les campagnes, en silence. Aujourd'hui, la reconnaissance par le Parlement offrira des droits à ses adeptes. Les mariages qu'ils célèbrent pourront être reconnus par l'État civil, comme le sont ceux célébrés par les églises chrétiennes. Cette religion pourra être enseignée à l'école, qui offre le choix entre cours de religion ou cours d'éthique. Mais cette décision des députés ne laisse personne indifférent. La question des sources est importante pour ses détracteurs. Aucun document écrit n'a subsisté. Tout se fonde sur les traditions orales transmises jusqu'à aujourd'hui ou les découvertes réalisées par les archéologues. Certains parlementaires voient dans ce renouveau la main de la Russie et d'autres un danger pour le catholicisme en Lituanie à quelques mois de la venue du pape. Initié par le Parti des Verts et des Paysans au pouvoir, philosophes et analystes redoutent surtout que la majorité impose avec ce vote une vision unique de ce qui fait l'identité lituanienne, ce qui signifierait un repli sur soi.
Musique. Vincent Teval a lui aussi décidé de saluer l'été. Bonjour Vincent.
Bonjour Catherine.
Alors, vous avez voulu donc le célébrer avec des Italo-Berlinois.
Et je vous propose de fêter l'arrivée de l'été en dansant sous le soleil italien. C'est le joli programme du deuxième album de New Guinea, duo formé par les musiciens Massimo Di Lena et Lucio Aquilina, qui sont nés et ont grandi à Naples, mais sont aujourd'hui installés à Berlin. C'est là qu'ils avaient conçu en 2016 un premier disque étonnant, The Tony Allen Experiments, entièrement construit autour d'échantillons du jeu de batterie de Tony Allen, le pape nigérian de l'afrobeat. Léger changement de décor aujourd'hui, puisque New Guinea s'est replongé dans ses racines italiennes pour enregistrer Nuova Napoli, hommage à quelques grands musiciens de Naples qui ont, dans les années 70 et 80, façonné une musique aux frontières du disco et du jazz funk, des références que New Guinea embrasse joyeusement au fil de 7 titres rafraîchissants chantés en napolitain.
Sur le jazz funk de New Guinea. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. À la réalisation, il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr et sur notre page Facebook.